Chaque année, c'est la rentrée des classes cinéphiliques au Forum des Images. Le festival s'est tenu cette année du 7 au 18 septembre. C'est l'étrange festival. Alors, il y a toujours, c'est un festival, il y a des films de toutes les nationalités, mais il y a toujours énormément de films asiatiques. Cette année, on a compté au moins une bonne dizaine, dont une prédominance, et ça, on va en parler justement en dressant un petit bilan du festival du cinéma japonais. À commencer par un film extrêmement attendu, peut-être le plus attendu du festival, qui est Anti-porno de Sono Sion. Alors c'est un film qui mérite une petite présentation. En fait, la Nikkatsu en 71 lance le genre ou le label du roman porno suite au succès des Pinku Aiga, des petits films érotiques donc à petit budget. Il y a plusieurs contraintes pour les réalisateurs, un petit budget, un temps de tournage limité, une scène de sexe toutes les 10 minutes. Et en échange, une liberté totale au niveau thématique et au niveau esthétique. C'est le contrat qu'a signé la Nikkatsu en 2016 pour les 45 ans du genre et du label, avec 5 cinéastes, dont on a pu voir 2 films à l'étrange festival, à commencer donc par cet anti-porno de Sono Sion. Elias, je crois que c'est l'un de tes films préférés, alors si ce n'est de l'étrange, même de Sono Sion d'une manière générale.
En fait, c'est un film qui est pour moi très salvateur parce que, comme j'ai beaucoup dit, peut-être déjà dans un podcast, mais comme je dis à tout le monde et qui parle de Sono Sion, etc., j'étais un peu déçu de l'année dernière de Sono Sion, de son année 2015-2016. Love and Peace, ouais, ok, Tag, c'était bien, mais tu vois, franchement, je l'avais oublié dès le lendemain. Virgin Psychic, c'est Shinjuku Swan, on préfère pas en parler. J'ai vu Whispering Star à Tokyo, bon, j'ai pas tout compris, mais déjà je me suis dit, tiens, c'est nouveau, c'est différent, c'est quelque chose de vachement, vachement original, ça change, c'est intéressant. Pour une fois, je sors en me disant, tiens, Sono Sion, je suis content après avoir vu un de ces films, je suis pas déçu, je suis pas, tiens, j'ai déjà vu ça. Et puis là, honnêtement, je m'attendais pas à grand chose parce que je pensais pas que le film sortirait. Il m'en avait parlé pendant l'interview, mais il m'avait juste dit le titre en disant, secret entre nous deux, tu dis pas le titre, hein, tu le publies pas, etc. Et là, je vois, il sort à l'étrange. Donc j'y vais, tout sourire, tout content, après un docu un peu moyen, peut-être qu'on parlera tout à l'heure.
Oui, alors entre parenthèses, c'est vrai que la Nikkatsu avait très peu communiqué sur Anti-porno. Ils avaient donné 2 images, on n'avait pas de casting, on avait juste...
Ouais, c'était une surprise qu'il soit à l'étrange.
Et c'est une pas surprise, effectivement, qu'il soit présenté à l'étrange. Et il me semble que le film avait été très peu montré avant cette projection à l'étrange, et en tout cas, même au Japon, avant...
Non, en fait, la Nikkatsu, ils ont sorti les 2 images et tout, la nuit de l'annonce où ils ont annoncé au festival le lendemain matin, en fait.
Et donc, là, je suis devant Anti-porno, et le film commence. Beaucoup de gens n'aiment pas trop le début du film, la première partie du film. Je peux comprendre, mais
alors,
moi...
si tu peux essayer de résumer...
Oui, voilà.
Et je vais donner une règle pour tous ces films de l'étrange festival. La dizaine de films asiatiques dont on va parler sont des films qui vont être disponibles en France dans les mois... Bon, voilà, on va dire les mois à venir, en VOD, en DVD, certains en salle. Donc on va essayer juste de ne pas trop spoiler sur les films, donc de ne pas donner des éléments clés de l'intrigue. Mais non, moi, c'est une gageure quand même de résumer Anti-porno.
Donc ça commence par une créatrice de mode, une espèce de starlette un peu insupportable, un peu hystérique, qui en fait reçoit une interview, plus des photos pour un magazine de mode. Et on la suit avant avec une petite discussion, enfin, avec son assistante personnelle. Une petite discussion qui part très vite en humiliation sexuelle assez intense, qui commence par lui renverser des verres dessus, puis au final ça monte, pour finir jusqu'à... Voilà. finir jusqu'à des scènes d'humiliation, voilà.
Spoiler alert.
Et puis ensuite, il se passe autre chose, donc je ne dirai pas la suite, et ça... Et donc en fait beaucoup de gens n'ont pas trop aimé le début de Anti-porno, et moi j'étais déjà content du début parce que je trouve que cette notion revient vraiment en fait à ce qu'il faisait au début, ce qu'on aimait son cinéma au début, c'est-à-dire des personnages en couleur, des personnages totalement surréalistes dans un cadre qui commence de manière assez des personnages qui arrivent qu'on ne verrait pas autre part, qu'on les voit. Enfin, je pense notamment aux photographes et aux personnages qui accompagnent les photographes de mode qui arrivent. Les scènes du début du film, avant qu'il se passe quelque chose, hein, avant le twist tiers de film, c'est pas du spoil, ça, qui se passe tiers de film.
Ça va être difficile d'en parler sans spoiler.
Il y a des mises en abîme constantes.
Voilà. On peut utiliser le terme de mise en abîme.
Voilà, la mise en abîme, rupture de ton.
Voilà, c'est un film qui marche beaucoup rétroactivement, tu vois, rétroactivement plutôt.
En fait, donc le premier tiers m'a beaucoup rappelé sa notion de Strange Circus, qui avait pas peur de grand chose, qui cassait les tabous, qui était un peu celui que j'ai aimé quand j'étais adolescent, qui disait ouais, trop bien, franchement quoi. Bref, qui était ouais, trop bien, je suis un rebelle, etc. Sa notion, c'est hardcore, c'est trop bien. Ça m'a rappelé cette notion-là que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup. Et puis ensuite, à partir de ça, le film part dans des délires, des couches et des couches et des couches de mise en abîme, et part dans des délires fantasques totalement surréalistes qui ont un sens, qu'on découvre vers la fin. Et c'est extrêmement intéressant, c'est plutôt, je trouve, bien joué, c'est visuellement assez sublime. T'as plein d'essais à partir de pots de peinture et de couleurs vives, et l'appartement, enfin, c'est pas. L'appartement de l'héroïne qui est uniquement peint en jaune et en rouge, où elle se superpose devant des fonds de couleurs qui correspondent souvent à ses humeurs. Et je trouve que visuellement et artistiquement, c'est pour moi le film sous notion le plus intéressant depuis extrêmement longtemps. C'est un film libre, c'est un film où il dit ce qu'il veut, c'est un film où il va au bout de ses idées, ce qui paraît depuis assez longtemps qu'il est au bout de ses idées. Et j'en suis super content parce que pour moi c'est un réal qui vraiment, il est connu pour aller au bout de ce qu'il veut faire. Ça fait longtemps que je le sens vraiment pas limité par des carcans, pas limité par un contrat. C'est les cartes blanches de Romain Porno, c'est ça aussi, tu vois. Et j'en suis très content parce que c'est vraiment le sous-notion que je veux voir. C'est une sous-notion qu'on n'a rien à faire de rien, qui est content de faire son cinéma, qui n'est pas content du monde, qui veut montrer qu'il n'est pas content du monde, qui est nihiliste, qui est punk, qui est rebelle, qui casse tous les codes de la narration des films, qui même le film en lui-même, dans sa structure, est totalement anarchique. On arrive d'une scène, on revient au début, on revient à la fin, et les choses se passent, qui après ne vont pas exister, etc. Et il y a même des éléments de décor qui disparaissent, des éléments. Et c'est vraiment, son notion fait ce qu'il veut. Et moi, quand je vois un film de son notion, je veux qu'il fasse ce qu'il veuille et qu'il me montre ce qu'il veut faire. Et c'est ce qui se passe dans ce film, c'est pas vite passé longtemps, j'en suis super content. Et pour moi, c'est le meilleur film de l'année, c'est le meilleur film de l'étrange. Et c'est peut-être le meilleur son notion depuis la trilogie de la haine.
Alors, il faut dire que le film a été assez clivant. Oui. Et après cette défense enthousiaste du film, la parole est à l'accusation. Martin, je crois que tu as un peu plus de réserve sur
ce notion. Oui, beaucoup plus de réserve. Il dit beaucoup de choses de vrai là-dessus. Il y a une forme d'énergie, de liberté, de ton qui est assez salvateur. Mais pour moi, il se prend vraiment les pieds dans le tapis. Quoi. Il y a un gros problème avec ce film. Le film a été fait en grand binôme avec son actrice Amy Tomité. Les gens la connaissent pas encore. C'est une
magnifique.
Oui. Ah, non mais là, c'est moi d'habitude qui suis hyper enthousiaste là-dessus. Et bon, même là, je vais. Amy Tomité, c'est une ex-idol des AKB48 et même pas l'une des célèbres. Elle était dans l'équipe de réserve, c'est pour vous dire. Mais bon, elle s'est trouvé un talent pour le
jeu. On fera un podcast sur AKB48.
Voilà. Ouais. Oui, je pense qu'il y a de quoi faire. Et voilà, elle s'est lancée dans la comédie. Elle a fait un film avant d'être découvert par notre ami Sono. Donc elle est apparue dans Tag, c'est la première collaboration. Et déjà, elle était un peu le porte-parole de Solution dans ce film-là. C'est-à-dire qu'elle était l'écolière qu'on voit au début avec le collier à clous. Qui dicte déjà le fonctionnement de ce monde, si tu veux. Donc elle a déjà une espèce de vision un peu somme, et puis il y a une attitude punk. Donc déjà, on imaginait bien que c'était ce notion qui s'est exprimée à travers elle. Et elle a revu là, cette même année dans une autre de ses productions, qui était Le Régime Psychique, dans lequel elle avait un rôle un peu plus déjà déshabillé. Elle faisait la méchante, voilà, tout simplement. Méchante lesbienne qui faisait une armée de poupées amoureuses. Et donc voilà.
Non, mais c'est juste pour dire que c'est justement pour renforcer son rôle dans l'univers de Sonosan, c'est parce que justement son personnage n'existe pas dans le drama en fait. Il n'existe que dans le film, et justement peut-être qu'elle est même à l'origine du personnage.
Je pense qu'en gros ils se sont trouvés et ils voient en elle une nouvelle muse, et elle en réalité un espèce de vecteur pour pouvoir s'exprimer, quoi. Parce qu'on comprend qu'il y a quand même pas mal de choses personnelles à elle qui sont dans le film anti-porno. Du moins on peut le deviner, donc c'est un peu une espèce de collaboration à deux, mais j'ai vraiment l'impression que ce notion il n'arrive pas à suivre le rythme, c'est ça le problème, c'est qu'il ressort, mais il a été beaucoup de Scorise qu'il a développé tout au long de sa carrière, mais elle va trop vite pour lui. C'est une espèce de jeunesse totalement folle, et lui, il commence à un peu pépère dans ses pantoufles, et il essaye de retrouver sa hargne de ses 20 ans, et ça fonctionne pas, quoi. Alors, il y a des idées qui sont fantastiques, mais tout ça au service d'une histoire qui n'est pas terrible. Et puis il y a toujours des pistes, mais rien n'est vraiment développé, tout est en surface, et au final, paraphraser l'impression de mes amis, il fait un film érotique qu'il a à demi-molle. Voilà.
Nicolas, tu veux dire quelque chose à
ça ? Non, mais en fait, je pense que à un moment, on se pose toujours la question, c'est toujours un peu le problème de ces films qui sont. Qui veulent mélanger la réalité, le rêve, le cauchemar, et à la fin on ne sait pas plus trop où est la frontière entre la réalité et tout ça. Et justement, Solution, lui, il dit, au bout d'un moment, il s'en fout, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas. Lui, il veut juste s'amuser, en fait, à faire du cinéma, et il s'amuse, ça se voit, il joue avec l'espace filmique, il mélange espace théâtral, espace cinématographique, et il le renouvelle tout le temps, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le film au final. Au final, l'histoire, on s'en fout, enfin, elle n'est pas très intéressante.
Ouais, mais c'est le vertige, ça aurait pu être vertigineux si on y croyait, ne serait-ce qu'un petit peu au début. Et le fait qu'on ait été la première rupture de ton, elle arrive beaucoup trop tard, quoi. C'est-à-dire qu'elle tire.
Justement, c'est le fait que ça devient quasiment un moment un peu insupportable, et puis un moment, paf, ça...
Ouais, mais justement, moi, j'étais déjà plus dans le film, quoi. Et même s'il y a certaines images qui sont vraiment assez fascinantes, hein, faut dire ce qu'il y a, c'est même si j'aime pas le film, ce serait de la mauvaise foi de dire que c'est une merde, ça n'en est pas une. Il y a toujours des idées de mise en scène qui sont assez incroyables. Mais je trouve que ça sert rien.
Je disais l'histoire n'est pas intéressante, mais au final il y a un propos derrière qui est assez émouvant, je trouve, sur le deuil, parce qu'au final ça parle beaucoup de deuil là,
héroïne, la successeur et tout, mais c'est très,
la
très
manière la manière justement de mettre en scène le deuil, c'est, enfin, je l'ai jamais vu ailleurs, quoi. C'est
que ce qu'il met en scène, quoi.
La manière d'intégrer les parents de l'héroïne dans le récit, la manière de enfin, il y a plein de, enfin, je veux pas spoiler, quoi, mais je trouve ça assez novateur et puis assez émouvant, quoi, au final. Qui est, alors à la base, on présente un personnage qui est juste insupportable, et puis les différents retournements de situation mis en abîme vont au final te présenter un personnage qui est
fragile
et vraiment émouvant.
Kéfren?
Ben moi, justement, je suis dans le même avis que Nicolas, c'est que pour moi, ça se rapproche de la période de Satoshi Kon, de Millennium Actress, Perfect Blue, où justement, les personnages sont comme des avatars, comme ça, des carcans que la mise en scène vient construire et vient leur donner de la forme, et qu'ils n'ont pas d'histoire en soi. Il n'y a pas une histoire dans le film en soi, quelque chose qu'on suit. C'est les différents niveaux de mise en scène qui viennent apporter la profondeur aux personnages et aux interactions, etc. Et c'est justement un travail de pure mise en scène et de pure matière, de jouer avec la matière filmique et la matière du cinéma pour créer le film.
Olivier.
Ouais, moi j'ai été hypnotisé par le film, moi j'adore le film. Je trouve que le dispositif formel, et ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il est toujours au service du fond et d'une vraie rébellion. C'est-à-dire tout le côté éclaté, pour moi, de la forme, c'est vraiment l'éclatement de la personnalité de l'héroïne. Ouais, ouais. Et je trouve que derrière le côté hyper formel, il y a un profond désespoir, je trouve, dans le film. Je trouve que l'héroïne m'a vachement rappelé l'héroïne de Guilty of Romance. Ouais, il y a une rébellion, une réflexion sur la manière, comment la femme doit-elle se rebeller et à quel moment doit-elle se rebeller face à un monde d'hommes. Et je trouve que le film est hyper efficace à ce niveau-là. Il est parfois désespérant, mais il y a cette espèce de révolte constante, moi, qui me touche énormément. Enfin, le film m'a vraiment enthousiasmé. Effectivement, la manière dont il réussit à sortir des règles du roman porno pour en faire sa matière propre, moi je trouve ça parfait.
Yes.
Puis j'ai vu beaucoup de critiques négatives, dont une de Elvire qui n'est pas là, mais j'ai qu'à rebondir dessus, qui disait que ce film était un exercice de style, de son notion.
J'aime pas ce mot.
Elle n'est pas là pour répondre, mais je trouve en fait que oui, c'en est un, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, dans le fait que son notion, je pense, est arrivé à un stade de sa carrière où malgré qu'ils disent en interview, comme il m'a dit à moi, qu'il ne réfléchit pas dessus, qu'il fait juste le film pour faire le film, je le crois pas, vu ce qu'il fait récemment. Et en fait, je trouve que dans ses films, il réfléchit beaucoup sur sa carrière et ce qu'il a fait avant. Et autant Tag était pour moi un peu une réflexion sur ses films plus commerciaux, plus voilà, c'est-à-dire il y a beaucoup de références à Suicide Club, etc. Pour moi, anti-porno, c'est son notion, comme il l'a beaucoup dit dans le documentaire Session Sono qu'on a vu là-bas, qui veut avoir 20 ans, et qui, alors, je pense, a revu tous ses films pré-Suicide Club et qu'on a fait une espèce de mix tordu. Il a mélangé tout son côté punk, tout son côté vraiment, tout son côté anarchique, tous ses côtés de rébellion intense qu'il avait, qu'il a beaucoup perdu au fil du temps.
C'est vrai que métrage. Donc il y avait un documentaire qui... C'était quoi le titre
du film ?
De Sion Sono, tout simplement. Qui est accompagné, en fait, qui est une sorte de making-of de Whispering Stars, et dans lequel on voit un Sion Sono qui est omnibulé par l'âge, en fait. Omnibulé par les dates, qui met sur tous ses tableaux, omnibulé par l'âge, par le retour en arrière possible, et par le temps qu'il a perdu à ne pas pouvoir faire des films pendant une partie de sa vie. Et donc ces scénarios qu'il reprend aujourd'hui, dont certains datent de 20 ans, et cette espèce d'obsession d'avoir du temps à rattraper. Donc moi, je suis assez d'accord avec toi quand tu dis qu'il court vers cette jeunesse qu'il avait à l'époque, Martin. Mais par contre, je trouve que justement, il arrive à l'actualiser et à la médiatiser aujourd'hui par une réflexion qu'il peut avoir sur ce qu'est la société japonaise aujourd'hui, sur ce qu'est la place des femmes dans la société japonaise et sur ce qu'est la jeunesse, parce qu'il s'adresse vraiment... dans tous ses films, je pense qu'il fait depuis 5 ans.
Mais d'ailleurs,
depuis Mizu, dans la jeunesse japonaise, on leur
dit, dans le documentaire, on voit...
Réveillez-vous, révoltez-vous.
Non, je dis pas qu'il le fond est mauvais, c'est juste que il est mal dirigé. Là où dans Tag, par exemple, le discours féministe était vraiment intéressant et traité en sous-texte, mais de manière assez subtile. Là, il le scande à plusieurs reprises, de manière assez lourde et tout.
Mais c'est
Tokyo. Je trouve qu'il y a beaucoup de maladresses en ce film qui font que...
Il y a quelque chose de l'ascension, mais qui passe par le discours artistique aussi. C'est-à-dire que c'est jamais direct non plus, c'est pas un discours qui est direct. Il y a une...
Non, mais je vois bien le rapport avec Tokyo Gagaga et compagnie, mais ils font des... c'est pour moi l'ensemble avait été de tous ces patchwork ne fonctionne pas. Il n'y avait pas cette espèce d'émulsion. Il y a quelque chose un peu faux, quoi, si tu veux, dans le côté je veux retrouver. Et t'as l'impression qu'il est. C'est le mec avec la crise à quarantaine qui veut sortir des petites gamines de 20 ans, quoi. Il y a un peu cet esprit-là, quoi. Et à un moment, c'est assume ton âge et compagnie. T'as peut-être un regard différent sur ta société, tu sais communiquer avec les jeunes, fais-le, tu vois. Et dans ces cas-là, laisse ton actrice prendre le relais sur certaines choses. Mais lui, il veut dire, non, mais mon esprit de 20 ans est toujours là, alors qu'il n'est plus, quoi. Et du coup, ça, beaucoup de choses paraissent un peu artificielles dedans, ce qui font que j'ai vraiment du mal à rentrer dans le film. Alors maintenant, est-ce que je rejette pas du tout? Je serais vraiment prêt à le regarder, à lui donner une seconde chance, mais de là à dire que c'est un chef-d'œuvre, sûrement pas. Non mais vraiment, faut un peu redescendre. Il y a une proposition intéressante que je trouve pas aboutie. Toi, oui, mais bon, après c'est.
Toi, c'est Elias.
Elias, voilà. La notion de chef-d'œuvre, vraiment, faut faire vraiment attention parce que c'est les quelques films qui sont inatteignables. Donc, que ce soit un coup de cœur, je comprends.
Oui, voilà.
Mais faut relativiser un petit peu, quoi. C'est un film qui divise pour pas mal d'aspects. Là, on peut le montrer. Voilà, je ne crie pas que c'est une merde ou quoi que ce soit, parce qu'on en a vu à l'étrange festival samedi. Et il y en avait vraiment des merdes infâmes, et on en parlera.
Bon, c'est commencé à m'avancer, mais on va faire les choses dans l'ordre.
Mais voilà, pour moi, c'est une déception.
Lila.
Oui, pour moi, globalement, c'est un film que j'ai bien aimé, mais malgré tout, effectivement, c'est aussi une déception, quelque part, pour moi. Parce que pour revenir, justement, au documentaire sur ce notion... Il y avait ce passage qui m'a beaucoup marqué où il disait qu'un mot pour le définir, ce serait quantité, parce que l'obsession de la qualité empêchait d'avancer, et que lui, il préférait faire beaucoup de choses en se disant que quelque part dans le lot, il y aurait quelque chose de bien. Et j'ai parfois un petit peu l'impression que c'est le cas avec Anti-Porno. On retrouve énormément d'idées, énormément de messages. Il brasse également plein de choses qu'on a pu voir dans ses précédents films. On a pu le rapprocher de Guilty of Romance, de Tag, mais... Voilà, il y a plein de clins d'œil, plein d'images qu'il reprend, de messages, mais au final, je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une unité? C'est aussi un petit peu difficile à aborder du point de vue du fait que effectivement il y a énormément de bits et d'abîmes, mais il n'y a pas vraiment de référentiel. Il n'y a pas un moment où on se dit ça, c'est la réalité pure et dure et tout le reste est né de là. Non, on navigue perpétuellement dans un monde de fantasmes où on est amené à douter de tout. Ce qui est très intéressant filmiquement, ce qui permet un travail extrêmement créatif, de faire intervenir des messages très forts qui, dans un référentiel qui serait réaliste, ne passerait pas du tout. Mais on a un petit peu de mal à savoir si est-ce que c'est vraiment un chef-d'œuvre où tout est pensé pour atteindre une sorte de forme supérieure, ou est-ce que ce sont juste des idées balancées à droite à gauche et il n'y a pas vraiment de fil qui tienne ça.
Il y a deux films à faire.
C'est que j'ai envie de dire ça,
Kefren. Allez, Kefren, parle-moi défendu le film.
Mais l'unité que tu recherches, justement, j'ai envie de dire, du point de vue même de cette notion, en fait, on s'en fiche, c'est l'expérience qui compte.
Oui.
C'est comme justement, je sais pas, comme un peu la poésie. Des fois, il y a un vers qui te touche et le poème en entier, tu te dis ouais, bof. Et c'est comme ça, c'est genre. Non mais je veux dire, c'est quelque chose de fulgurant, ça te prend et c'est tout, et t'as pas besoin de réfléchir sur est-ce que c'est l'unité, est-ce que c'est lié ou pas, hein. Si ça te touche, il a réussi, il a gagné, et c'est ce qui compte. Après, l'argument de la quantité, ça, beaucoup d'artistes le disent au Japon, que ce soit pour la photographie, la musique et tout.
Bon bah très bien, je crois qu'on a clôturé notre podcast sur Smotion ce soir, prétexté et anti-porno. Voilà, il y a une petite mise à jour qui s'est faite, je pense. Olivier, tu veux ajouter quelque chose?
Une question, une remarque, je ne sais pas si quelqu'un... par rapport au nouveau roman porno, il y a quelque chose qu'on a perdu, c'est le scope. Hein. Et il y a un truc qui m'a frappé dès le départ au niveau du format. C'est-à-dire, effectivement, on essaye de reprendre des règles, mais ce qui m'a frappé, c'est que ce soit pour le Smotion ou pour... Wet Woman.
In the Wind, dont on va parler maintenant, donc c'est parfait.
Voilà, on a plus de scope. Hein, voilà, c'est quelque chose que je regrette un petit peu quand même.
Et donc tu as vu Wet Woman in the Wind?
Oui. Oui.
Alors est-ce que tu peux nous présenter le film? C'est le deuxième film, hein, comme on reste sur les romans porno, et donc la transition est toute.
Je vais avoir du mal à résumer. Alors que c'est tout simple. En fait, Wet Woman in the Wind, je dirais que c'est un peu le prototype du roman porno des années 70 inversé. C'est-à-dire c'est un peu le prototype de la domination masculine, des rapports un peu SM courants dans le roman porno des années 70. Inversé, parce que désormais c'est girl power,
ouais.
Et donc c'est elle qui domine toute la situation du début jusqu'à la fin, qui harcèle le mec en promettant qu'elle va coucher avec et qui finalement
s'amuse avec lui.
Voilà. Donc moi je trouve le film très très joyeux, très libertaire, très léger. Pour le coup très très érotique aussi, je trouve qu'il est vraiment il est très sensuel.
Et puis l'actrice, celle qui joue la première, celle qu'on voit en premier, elle est fabuleuse. Son caractère.
Je trouve que c'est un film qui tient sur sa légèreté et sa sensualité. J'ai quelques petits éléments pour minorer, c'est-à-dire que ce qui m'a frappé, c'est que si tout le film parle de libération féminine, il y a deux trois personnages qui retombent dans le cliché précédent du roman porno, en particulier une jeune fille qui est totalement soumise et qui là pour le coup est un vrai cliché intégré au film.
Mais pour le coup là, je pense que c'est voulu, c'est pour abaisser le personnage masculin, c'est pour montrer que ça réutilise le motif de la domination masculine. Mais pour descendre le personnage masculin, alors que d'habitude, quand on a ce genre de scène dans du roman porno classique, c'est une scène érotique comme une autre.
Et surtout
que là, c'est vraiment pour montrer que...
Parce que là, en fait, il a séduit en plus par frustration.
Mais c'est même un concours, en fait, avec l'autre, qui prend tous les élèves de... Ouais.
Et même la prof et lui, il est frustré d'être extérieur à ça. Il commence un espèce de concours avec elle pour dire qui va aller le plus loin, machin, tout ça.
Oui, parce qu'il est même dominé en tant que...
Pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous êtes...
là, on est en train de spoiler un peu.
On va revenir sur le film, Justin. Donc, est-ce que tu penses que c'est un bon roman porno?
Oui, mais comme le disait Olivier, en fait, ça reprend un peu surtout le principe du côté stalker un peu sexuel qu'on voit dans certains romans porno, comme il y a des titres gratinés, genre le violeur à la rose, des titres que genre c'est un personnage un peu fantomatique qui surgit, qui viole un personnage féminin gratuitement, ou harcelé aussi. Il y avait un réalisateur qui était un peu spécialiste comme ça, c'était Yeshua ACB. Et donc là, il reprend le même principe, c'est un personnage, on ne sait pas d'où elle sort, ni pourquoi, ni comment.
Déjà, son arrivée...
déjà, juste la première scène est un peu logique. Et qui se met à harceler le personnage masculin. Et là, en fait, ça prend un motif vraiment féministe, parce que au départ, le personnage masculin passe comme une victime, comme la femme pouvait passer pour une victime dans du Pinku classique. Et au fil des révélations, on se rend compte qu'il n'était pas si net que ça, quand on saura son passé. Et donc c'est le côté féministe, voilà, où il se retrouve dominé en tout point. Donc c'est en tant que au niveau artistique, avec une espèce de mise en abîme avec le théâtre théâtral dans le film, et puis même au niveau sexuel.
Non mais cette scène incroyable, sans spoiler, où il se fait chauffer par la fille. Et au final, ça se transforme en délire lesbien complètement.
Oui, en fait, elle est meilleure amante que lui. Quoi.
Voilà, c'est très très bien dans la structure du film, c'est que ça l'érotisme monte graduellement. C'est-à-dire qu'au début, les scènes de sexe, vraiment, il en monte très peu de plans, c'est souvent interrompu. Et du coup, il y a une forme de frustration. C'est-à-dire qu'il remplit le cahier des charges, mais quelque part, on est toujours un peu sur sa fin. Et ça monte graduellement pour arriver à une espèce de climax absolument, mais génial, quoi. C'est ce qui est beau, c'est qu'on voit un film érotique qui donne envie de faire l'amour. C'est pas courant, mais au moins faut le signaler. Où les femmes sont pas des objets, mais elles sont vraiment, elles assument leur sexualité, elles l'assouvissent, elles la partagent et tout, et ça là-dessus c'est vraiment très 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 bien. Et puis bon, le personnage masculin sont tous un peu minables, voilà, mais ils peuvent être un peu attachant, des fois être aussi réduit à l'objet de pur l'objet sexuel, hein,
avec les élèves qui font la queue. Donc,
oui, il y a une espèce de running gag qui revient régulièrement, voilà. Et même, tous les surfeurs qu'elle s'envoie à chaque fois qu'elle passe dans le jeu.
Qui prennent pour conclure sur.
J'aimerais juste dire que ça me fait penser. Le film me fait penser à un autre film qui est cette fois français, qui est Naissance de lutte de Jacques Doyon.
Ah oui, moi on en avait parlé, ouais.
Suit le même schéma, sauf que c'est qu'un affrontement entre un homme et une femme, comme ça, érotique, physique, ils se battent.
Ça m'a rappelé autre chose. Vu que le film est ressorti récemment, ça m'a rappelé Showgirl. Dès qu'il y a une scène d'amour, les scènes d'amour entre Elizabeth Berkley et Kyle MacLachlan, où j'ai l'impression que c'est elle qui fait l'amour à Kyle MacLachlan, dans les positionnements, dans les mouvements. Mm. Et on a la même impression dans Wet Woman on the Wing, où c'est vraiment.
C'est
elle qui baise.
qui est vraiment intéressante, en tout cas, c'est le travail qu'il a fait aussi sur le théâtre d'impro. Et notamment pour illustrer la relation des deux personnages principaux. Sur la fin, quand ils commencent vraiment à se chercher, à se séduire, s'attraper et tout, c'est vraiment la danse contemporaine, avec des positions sexuelles. Et il y a une espèce de... ça, c'est vraiment fascinant, quoi. On est à la fois excité, et puis l'autre part, il y a vraiment un ballet qui est vraiment très bien filmé, avec beaucoup de plans longs, des fois même des plans séquences, et c'est vraiment très très fort et assez troublant. Et tout ça avec des petites pointes d'humour, mais
bien,
comme il faut. Pour moi, ça reste le meilleur film que j'ai vu à l'étrange cette année. Donc, voilà.
Non, oui. Juste, on n'a pas parlé. Esthétiquement, je trouve qu'on est, par contre, on est un peu aux antipodes du roman porno des années 70. On est dans un visuel qui est souvent très réaliste, et on est presque plus proche de Hong Sang-soo que de Konuma, quoi. Enfin, voilà, je trouve ça aussi intéressant.
Lila,
Non, rien de spécial à dire là-dessus. Non, c'était un film que globalement j'ai trouvé intéressant, notamment vis-à-vis de ce renversement des pouvoirs habituels par rapport à ce qu'on peut trouver. Une héroïne qui, moi, m'a fait penser, mais de manière un petit peu différente, puisque pour le coup, ce n'est pas du tout une héroïne sexualisée, mais qui m'a beaucoup fait penser au personnage incarné par Fumi Kaido dans Himizu, qui est très volontaire, qui va totalement s'acharner sur le personnage masculin principal, mais d'une manière qui est parfois presque détestable, mais qui est au fond extrêmement positive, parce qu'elle veut provoquer chez lui un changement en profondeur. Bon, les motifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans Himizu, c'est pour le pousser un peu à se reprendre, à s'affirmer en tant qu'individu. Là, il y a peut-être plus une attaque par rapport au patriarcat. Enfin, patriarcat, c'est pas forcément le mot, mais... voilà, enfin, cette domination masculine, à la façon dont lui joue sa sexualité, qui est assez machiste, en fin de compte. Donc là, c'est peut-être plus contre un système que contre un individu. Après... Bon, ça reste pour moi en termes de mise en scène, de réalisation, correct, mais pas transcendant. Du coup, j'ai du mal à vraiment y voir hein, quelque chose de marquant. Mais en tout cas, c'était un bon film de festival.
Ce qui est positif, c'est qu'on a donc découvert deux des cinq romans porno de la Nikkatsu, qui sont en tout cas intéressants pour diverses raisons. On espère que les trois autres...
Le Nagata est pas-t-il vraiment raté?
Paraît-il. On ne l'a pas encore vu, donc on verra. Après, on peut retrouver, d'ailleurs, j'en profite sur le site, une interview des cinq réalisateurs du roman porno de Stéphane Sarrazin, donc actuellement en ligne. Et c'est vrai que ça, c'est une interrogation qu'on peut poser à la Nikkatsu, comme on a parlé beaucoup de féminisme, à la fois pour le Sonotion et à la fois pour donc le Shiota Akihiro. Aucune réalisatrice n'a été sélectionnée par la Nikkatsu pour faire un roman porno en 2016. Voilà, ce qui en tout cas peut paraître un peu dommage, ouais. Hein, voilà, pour avoir un autre point de vue. On va rester au Japon avec un des films qui nous a surpris pour ce festival, qui est Ime Anole. Lila, je vais te laisser la parole, comme c'est toi qui a écrit la critique donc sur le film.
Ma foi, Ime Anole, qui était une bonne surprise. C'est une adaptation de manga. À partir de là, on pouvait se poser des questions en termes de liberté prise. Alors, je n'ai pas lu le manga original, donc je ne pourrais pas dire si le traitement est différent. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans Ime Anole, c'est que on est sur un film qui se tient parfaitement dans sa première partie, sur une comédie romantique, un peu gentillette, un peu niaise, mais qui malgré tout fait son effet, ne choquerait pas au milieu de... alors, malheureusement, ce n'est pas ma spécialité, les comédies romantiques en ordre général, mais c'est une première partie qui tient la route, et puis on arrive à 40 minutes, et tout d'un coup... Il y a un changement d'ambiance qui est assez radical, il faut le dire. On passe tout d'un coup à quelque chose de très sanglant, de très violent, une violence qui est assez brute quand même, qui n'est... Alors, je ne dirais pas que c'est un film très violent, mais la violence, quand elle est montrée, elle marque quand même. Donc on est totalement aux antipodes de cette première partie très gentillette. Mais ce qui est vraiment intéressant,
aussi,
c'est
peut-être
que...
parce que c'est un contrepoint total, voilà, à l'ambiance qu'on a présupposée au film, en fait.
Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, il y a une opposition dans l'ambiance, il y a une opposition même dans la façon dont le tout est réalisé, parce que la première partie est quand même très simple en termes de réalisation. On va pas dire que c'est mauvais, mais on est sur ce qu'on attendrait... d'une petite comédie sans gros budget, on n'a pas forcément une ambiance qui est très prenante, on a des plans en général larges, assez classiques, pas vraiment de musique. On passe ensuite sur quelque chose qui est beaucoup plus travaillé en termes d'ambiance thriller, avec des plans un petit peu intrigants, une musique qui va être là pour poser une ambiance. Et donc on a vraiment une différence non seulement en termes de contenu scénaristique, mais aussi en matière de réalisation. Et pour autant, il n'y a pas une partie qui apparaisse vraiment plus faible au regard de l'autre. Les deux tiennent la route indépendamment et leur mise en parallèle est quand même réussie. Moi, il y a une scène qui m'a... Enfin, une scène très marquante dans ce film qui marque justement un petit peu ce dédoublement. On voit en parallèle une scène de sexe et une scène de torture. Voilà, les deux sont montés en parallèle et c'est terrible parce que c'est à la fois très drôle et ça met très mal à l'aise. Et ce qui est le grand succès du film, pour moi, c'est que effectivement, on a cette cohabitation sans arrêt entre des choses qui vont faire rire et des choses qui vont être angoissantes, voilà, et nous déranger. Après, ce n'est pas non plus un film qui va forcément révolutionner quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que c'était vraiment de bonne facture. Et à cet égard, voilà, c'est pour moi un des films qui m'a positivement marqué cette année.
Nicolas ?
Ouais, alors faut que je remette en contexte dans le contexte au moment où je l'ai vu. En fait, à l'Étrange Festival, chaque film est projeté deux fois, mais c'est toujours le même principe en fait. Chaque film est projeté deux fois, et donc on va pas tous voir les films en même temps, des fois on n'a pas forcément le même emploi du temps. Et du coup, moi j'étais le seul, je crois, à le voir à la deuxième séance, vous l'aviez toujours vu à la première. Et donc comme j'en avais entendu beaucoup de bien de votre part, et puis d'autres personnes aussi, je m'attendais vraiment à un film, une grosse baffe, un truc. C'est toujours un peu le problème, quoi. On monte un peu la tête sur certains films, et après, on va le voir, on est un peu déçu. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je trouve le mélange des genres assez réussi, enfin, le basculement assez réussi. Même si, bon, tous ceux qui ont vu Audition de Takeshi Miike, encore lui, on va en parler, diront que, bon, c'était un peu la gnognotte à côté, quoi. Mais...
Tu pourras sortir ça juste pour que je puisse faire une bonne transition dans deux minutes.
mais en fait j'ai je trouve ça, enfin c'est un bon film, c'est un film correct, mais je trouve qu'il y a tellement, enfin il y a eu tellement de films meilleurs dans ce registre là qui ont été faits même au Japon, mais surtout en Corée, que j'ai pas grand chose à dire sur ce film, quoi. C'est y a, même les scènes, les séquences supposées violentes, elles sont finalement presque toutes en hors champ.
Non, à part une, quoi.
Mais enfin, je m'attendais à un truc. Et en plus, je m'attendais à un truc un peu plus, encore un peu plus malaisant, quoi, par rapport au héros même, quoi. Au final, c'est un gentil héros du début à la fin. Moi, je pensais qu'il y allait avoir un truc avec lui, tu vois. C'est même pas ça, quoi. Donc, au final, j'étais pas du tout surpris de ce qui se passe.
Yes.
En fait, je suis juste un peu déçu. Enfin, c'est juste au niveau. Comment le film a été vendu, en fait, qu'on nous prévienne dès le début que c'est un film marrant qui après au bout d'un moment twist et devient sombre et ténébreux, etc.
Exactement.
Parce que à part ça, l'hameçon est posé mais superbement. Le réal a fait que des comédies romantiques, l'acteur c'est un mec de boys band japonais, voilà. Franchement, une petite japonaise de 14 ans qui va voir ça, qui connaît rien là-dessus, qui voit juste le réal,
oui.
Non. Et l'acteur, je pense qu'elle se prend une claque.
Oui, oui.
Nous, comme on a... Comme...
C'est un peu le problème.
Mais voilà. Déjà, on est à l'étrange festival, donc
voilà.
On s'attend à ne pas voir qu'une simple comédie romantique.
On dit dès le début que le team twist, etc. C'est dommage, parce que moi, j'ai toujours une grande passion pour toutes ces œuvres, qu'elles soient dans n'importe quel médium, qui commentent une façon pour au final twister quelque chose de beaucoup plus sombre. Quoi ?
T'as dit Tam Shyamalan.
Non, pas forcément Shyamalan, mais je pensais à d'autres choses. Enfin, et c'est dommage, enfin, je trouve qu'on nous les a vendus comme ça, parce que je pense que ça a beaucoup gâché du plaisir. Et enfin, moi, j'aurais adoré voir ce film à l'étrange, qu'on me dise juste ça, il se passe un truc avec une fille et trois petits points,
et voilà.
C'est tout. Mmh. On arrive, on voit rien, et d'un coup, bam.
Donc, si vous nous écoutez, de toute façon, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est raté si vous ne nous écoutez pas.
Après, voilà. Après je trouve quand même. bien que son évolution soit pas forcément surpris, et que c'est un peu monotone par moment, je trouve que le personnage donc, du méchant, justement, enfin, du tueur, est assez intéressant, surtout dans sa finalité, en fait, la manière dont dont on l'évacue un peu à la fin.
Martin,
moi, ça fait vraiment partie de mes coups de cœur du festival. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon, la transition des genres, quoi. Alors, autant la partie comédie romantique est assez charmante, le trio amoureux est assez fantasque.
Juste, entre parenthèses, d'un point de vue de comédie romantique, ça marche quand même très très bien.
Oui.
Et c'est déjà au-delà de la plupart des comédies romantiques.
Là, on a vraiment une bonne comédie romantique.
C'est bien rythmé.
Les personnages sont bien campés.
Il y a une scène hilarante de déclaration d'amour.
Oui, voilà, on n'en dit pas plus. Et même, comment dire, les premiers pas amoureux, je trouve qu'ils sont assez touchants. Voilà. L'actrice, bon, le charme de l'actrice joue beaucoup. Et puis surtout, voilà, c'est le héros, il faut dire ce qu'il est. C'est un type qui est un peu insignifiant, qui est petit, pas très joueux, pas très beau, qui a un travail, qui, voilà, il est technicien de surface. Et il sort quand même avec une jolie petite japonaise et on nous fait comprendre que voilà, c'est un couple qui détonne un petit peu. Ouais. Et puis on sent qu'il y a un personnage qui est un peu dans l'ombre, un peu inquiétant, mais on ne sait pas trop en vérité quelle est sa répercussion. Et ce type-là, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Go Narita. Morita, voilà.
Morita dans le film.
Oui, voilà. Et qui est vraiment une star de la chanson, enfin, qui a été autrefois une star pour Minette, qui a été dans plusieurs boys bands. Et donc, c'est une immense star, et le faire jouer dans un contre-emploi comme ça, j'ai rarement vu un mec prendre autant de risques que ça. Il faut bien savoir, notre ami Bastien Merson a fait, comment dire, la réflexion. Il appartient à une écurie qui s'appelle Johnny's ou je sais pas quoi, où vraiment, les, voilà, c'est dans leur cahier des charges, ils ne doivent jouer que dans les comédies romantiques insipides, embrasser que des jolies filles. Voilà, et là, il joue un tueur en série, mais vraiment, je l'ai rarement vu aussi glaçant que ça. Et les scènes de meurtre sont effroyables de réalisme. C'est ça qui est terrible, c'est que... justement.
Il tue quelqu'un.
Laisse-moi développer. C'est-à-dire que, déjà, d'une part, c'est pas comme on peut voir, notamment dans le cinéma coréen, où la violence est hyper stylisée. Là, du tout, on est vraiment témoin de scènes de meurtre. C'est ça qui est vraiment hyper dérangeant. Et tu vois qu'il a vraiment travaillé le réalisme. C'est-à-dire que quand il poignarde un type dans le dos, il y a des endroits où la lame elle rentre, il y a des endroits où ça tombe sur l'os et ça coince. Et tu vois que le mec il commence à s'amuser, à se faire clac clac clac. Et on voit vraiment un espèce de sadique en train de s'éclater avec sa proie. Et toujours avec la bonne distance qu'il faut, et ça crée un malaise. Je n'ai pas ressenti ça depuis le Zodiac de Fincher. J'ai vraiment un tel effroi. Vraiment, c'est... Le cinéma coréen, il joue vraiment sur l'hypersexualisation de la violence. Et donc, c'est un côté le côté très brutal. Là, il y a vraiment... C'est hyper réaliste. Et on a l'impression d'être dans la pièce à côté, d'observer, et on ne peut pas parler, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bien foutu. Et après, la relation qui va développer entre les deux, le tueur et le...
J'ai ressenti ça sur le premier, mais en fait, comme c'est très répétitif.
Le premier meurtre.
Mm-hmm. J'ai ressenti, c'est le premier, mais enfin pas le flashback, mais le.
Non, mais le couple.
Le couple. Ouais. Là, pour le coup, c'est vraiment une scène très forte, parce que c'est celle-là qui est en plus en montée en parallèle. Oui. Avec... Ça, c'est une très bonne scène. Mm-hmm. Mais après, je trouve que c'est un peu répétitif, quoi.
Le mec est. Et on voit qu'il grimpe en puissance à chaque fois. C'est ça qui est effroyable, quoi. C'est que au début c'était on explique les circonstances, voilà, de sa violence, si tu veux, certains effets, en fait, voilà, il a des vues sur la jeune fille, il est jaloux et puis il veut se débarrasser de son rival, donc du coup voilà, il veut recommencer quelque chose. Mais après ce premier meurtre qu'on voit monter en parallèle, il se découvre une forme de jouissance dans la mort, et il grimpe en puissance là-dedans, et c'est ça qui est effrayant.
Ce qui est intéressant dans le personnage, c'est que c'est la manière dont il est complètement déshumanisé, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il a plus une once d'humanité.
Ah oui, ça suffit pas.
Alors, Lila, pour conclure sur ce film, parce qu'on a encore
une dizaine de films. Un petit truc, c'est qu'on parle de mort et de scènes glaçantes, mais il y a aussi de super scènes comiques, notamment une scène de repas avec une amie de l'héros. l'héroïne. Enfin,
qui est amoureux.
C'est...
Ah oui, là.
Qui justement double. Critique et c'est des scènes très drôles et très réussies. Mm.
C'est juste. Et j'ai trouvé que justement, c'était une des choses qui était intéressante dans ce film, c'est que la violence, je la trouve pas complaisante. Notamment, donc, comme tu disais, Martin, par rapport au fait qu'elle n'est pas hyper stylisée comme dans beaucoup de films, notamment les grands polars coréens. Mais également, tu disais, Nicolas, il y a beaucoup de violence qui est en hors-champ. Et pour moi, ça participe un peu à ça. On n'est pas juste là pour montrer du non, sadisme, oui. pour voilà, se complaire là-dedans. Pour moi, justement, ce hors-champ renforce l'ambiance du film.
En fait, c'est ça le truc. C'est pas parce que moi, il y a des séquences de hors-champ de violence qui me terrifient. Mais là, je trouve... Enfin, moi personnellement je trouve que c'est mal équilibré, enfin je trouve que y a pas, c'est pas c'est un peu, je trouve apparemment c'est du hors champ pour du hors champ quoi, c'est pas Nicolas, c'est pas c'est, un c'est... choix à un moment hors champ un choix pas hors champ
c'est quel
quoi.
Film violent qui t'avait terrifié? Ouais,
je pourrais pas t'en donner.
Non, mais un film japonais de 99 que tu as cité tout
oui,
à l'heure.
Oui, Audition aussi, oui. Mais...
Audition de Takashi Miike. Et c'est une.
Je sais que tu fais pas ta transition, mais je voulais.
Il n'y a pas que du hors champ.
Je voulais envoyer à quelque chose par rapport. Tu disais que le cinéma coréen avait traité ce type de sujet bien mieux. Donc moi, je te renvoie à un film coréen qu'on avait vu l'année dernière au Festival Film Coréen, dans les comédies romantiques. Il y en avait une qui s'appelait My Ordinary Love Story, qui raconte une histoire à peu près similaire où une jeune femme se trouve en couple avec un gars et puis il s'avère qu'il est tueur en série pendant son temps libre.
Mais là, c'est pas du tout, ça devient pas du tout super sombre.
Non, mais par contre, voilà, le mélange des genres est vraiment bien traité dans Imanolé, et alors qu'il était vraiment raté dans. Donc, quitte à comparer des films, là, on tombe vraiment sur les mêmes sujets et il y en a un qui a réussi, l'autre pas.